c'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4:09, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Dans les années 60, les postes de radio de l'Europe du Nord vont vibrer de nouvelles voix, de nouveaux sons, de nouvelles musiques. On les a appelés Offshore Radio, Pirate Radio ou Marine Broadcasters. Mais quelles que furent les expressions par lesquelles on les désignait, ces DJ de la haute mer qui opéraient depuis des bateaux ou des forts marins abandonnés ont écrit d'incroyables pages d'aventures radiophoniques et maritimes.
Le 28 mars 1964 restera une date majeure dans l'histoire des radios offshore. Ce jour-là, Radio Caroline, la première station maritime au large des côtes britanniques, débute ses émissions. Elle arrive dans un contexte où les stigmates de la guerre commencent à s'éloigner. Le niveau de vie s'améliore et les jeunes, qui pour beaucoup n'ont pas connu la guerre, ont des désirs d'émancipation. Le nec plus ultra de cette quête individualiste se trouve dans ce que l'on va appeler les Swinging Sixties. Elles seront notamment incarnées par le quartier de Chelsea. Ce mouvement, qui vivait un peu en vase clos, voit se croiser des galeristes d'avant-garde, de jeunes gens issus de la mode, du théâtre, du cinéma ou de l'écriture. Les Swinging Sixties faisaient cohabiter une certaine idée de l'existentialisme avec une philosophie de l'immédiateté et de la versatilité. On pouvait y faire des projets, y nourrir des idées sans lendemain. Face à la très conservatrice BBC, Radio Caroline incarna, à ses débuts au moins, les Swinging Sixties. La défiance à l'égard de l'ordre établi s'exprima aussi dans la polémique qui naquit dès le début des émissions. Le ministère des Postes accusant la radio de Ronan O'Reilly de brouiller les communications entre les gardes-côtes et les navires. Les responsables de Caroline répliquant à ces accusations sans se laisser impressionner. La presse relais et les auditeurs sont au rendez-vous. Mais Radio Caroline restera aussi dans l'histoire par son étonnante longévité. Aucune autre radio offshore ne tiendra tête aussi longtemps aux autorités.
You're tuned to 199, Radio Caroline, your all-day music station. The time, 11:01, and time to go to Girl Conway.
Carl Conway, but don't stop whatever you're doing. Just let me make it a little easier for you while we listen to some records together, hmm? Well, how about starting with Needles and Pins by the Searchers?
The Times, mercredi 1er avril 1964. Un autre pirate, la radio est prête. De notre correspondant, Felix Toe, 31 mars. Radio Caroline, la station de radio pirate au large de Felix Toe, sera bientôt rejointe par une autre. La nouvelle station, Radio Atlanta, devrait s'installer au large de l'East Anglia dans les prochaines semaines. On pense que Radio Caroline a pris ses fonctions à la hâte en raison de la rivalité menaçante de Radio Atlanta. Lorsque le porte-parole de Radio Atlanta a été interrogé pour savoir si une guerre publicitaire allait se développer, il a refusé de commenter. On apprend aujourd'hui que Radio Caroline est reçue en Hollande beaucoup plus clairement que Radio Veronica, cet autre navire radio pirate amarré dans les eaux internationales au large de la Hollande du Nord. Je suis monté à bord du Caroline aujourd'hui et le responsable des programmes a nié qu'il y ait eu une quelconque interférence avec les canaux radio officiels. Le gouvernement britannique ne désarme pas et le 7 avril, Reginald Bevins, ministre des Postes, fait une longue intervention à la Chambre des communes, affirmant que toutes les mesures seront prises contre Radio Caroline, y compris le brouillage des émissions. Selon lui, les annonceurs publicitaires et les maisons de disques collaborent avec le gouvernement pour mettre fin à la radio offshore. Et le Panama aurait retiré le pavillon du MV Caroline. Une grande partie de ces propos sont faux. En fait, les annonceurs observent l'évolution des choses avant d'acheter de l'espace publicitaire. Quant aux maisons de disques, elles ont un double discours. Officiellement, elles n'ont aucun lien avec Radio Caroline, mais discrètement, elles s'arrangent pour que la radio offshore reçoive les dernières sorties de disques. Rapidement, les autorités vont rendre le plus difficile possible les allers et retours entre la terre et le bateau. Les biens destinés au MV Caroline seront soumis à un droit de douane et les personnes devront passer par le service de l'immigration et par celui des autorités sanitaires. Un palier de plus est franchi dans le bras de fer lorsque le 6 mai, le HMS Venturous de la Royal Navy se range à côté du MV Caroline. Des douaniers exigent de monter à bord pour inspecter le bateau. Le capitaine du MV Caroline refuse, arguant d'une part que le navire est dans les eaux internationales et d'autre part qu'il est sous la souveraineté de son pavillon. À l'antenne, le DJ Simon Dee relate largement l'évolution de la situation. Finalement, le Venturous fit machine arrière. Les autorités britanniques ont-elles réellement eu l'intention d'arraisonner le MV Caroline et y ont-elles renoncé en constatant que cela se ferait en direct ? Ce fut en tout cas une publicité de plus pour la nouvelle station qui séduisait, par son programme inédit de musique non-stop, à peine interrompu par les interventions des animateurs. Il n'existait aucune autre radio de ce genre accessible en Grande-Bretagne. Un jeune groupe de Birmingham va même fournir, sans doute involontairement, ce qui va devenir l'hymne de la radio. En effet, en ce printemps 1964, The Fortunes publie un single titré « Caroline ». Et même si le sujet du titre n'est pas la radio offshore mais une jeune fille, l'association est maintenant inévitable. Le nom Radio Caroline. On a souvent dit que ce nom avait été inspiré à Ronan O'Reilly par la photo de couverture d'un magazine montrant Caroline Kennedy, la fille du président américain, jouant dans le bureau ovale. Il s'agit vraisemblablement d'une légende. En réalité, ce serait Jocelyn Stevens, le propriétaire du magazine Queen et l'un des premiers actionnaires de la radio qui aurait proposé ce nom. Beatrice Miller, qui était la rédactrice en chef de Queen, avait défini un profil de lectrice type, environ âgée de 20 ans, ayant quitté l'école assez tôt et plutôt insouciante. Elle avait appelé Caroline. Jocelyn Stevens persuada visiblement Ronan O'Reilly que ce profil devait aussi être celui de l'auditrice de sa radio. À peine un mois après son lancement, un sondage révéla que sur un public potentiel de 20 millions de personnes, 7 millions avaient déjà écouté plus ou moins régulièrement les programmes. La station avait clairement montré sa pertinence alors que la BBC et la classe politique avaient persisté à négliger les attentes des Britanniques. Au cours des quelques émissions réalisées en direct depuis le MV Caroline, les animateurs faisaient des commentaires sur la vie à bord ou sur les conditions météo, ce qui contribuait à renforcer le lien de proximité entre la radio et ses auditeurs et à lui donner un style unique. La circonspection des annonceurs publicitaires se transforma rapidement en un intérêt que les dirigeants de Caroline comprirent immédiatement. Dans une interview du Daily Mail, Jean Scudler, la responsable commerciale, n'hésite pas à comparer le modèle économique de Radio Caroline avec celui de Radio Luxembourg. Elle déclare : « En 1962, Radio Luxembourg a vendu pour 425 000 livres de publicité sur son antenne. Même si Radio Caroline ne réalisait que la moitié de ses revenus avec ses tarifs plus bas, elle s'en sortirait plutôt bien. Ce n'est après tout qu'un navire avec un mât radio de 50 mètres, un équipage de 10 personnes, deux disc jockeys et une bibliothèque de 3000 disques. Luxembourg est une affaire beaucoup plus complexe. Ces transmissions sont gérées par Radio Luxembourg Limited avec deux directeurs français et deux directeurs britanniques. Elle est installée dans une maison géorgienne de 4 étages dotée de deux studios au cœur du quartier UP de Mayfair. Jean Scudler pointe aussi le faible bénéfice réalisé par Radio Luxembourg en comparaison de ses recettes publicitaires du fait de la masse salariale et de la tutelle de la maison mère, la compagnie luxembourgeoise de télévision. Elle conclut sans embâge : « Il est plus coûteux de gérer une entreprise de radiodiffusion à Mayfair et au Luxembourg que depuis la cabine d'un navire tanguant et roulant dans la mer du Nord. Si les publicitaires restent discrets et que le Conseil de l'Europe ne la torpille pas pour piratage des ondes, Radio Caroline devrait être sur la bonne voie. »
Time is now 1 minute to two on Radio Caroline on 199, your all-day music station. So let's join me for the soundtrack.
Me love you. Let me say that I do. If you lend me your ear, I'll make it clear the way that I do. Let me whisper it. Let me sigh it. Let me sing it, my dear.
Contrairement aux idées reçues, à ses débuts, Radio Caroline n'était pas une copie conforme des radios musicales américaines. Le style d'animation n'était pas aussi offensif que celui de la plupart des DJ US. Les interventions étaient moins cadrées, moins professionnelles. De même, la programmation musicale n'était pas uniquement rock et pop. Bien sûr, les Beatles, les Rolling Stones et tous les jeunes talents émergents étaient diffusés. Mais il ne faut pas oublier qu'une partie des animateurs de la station à cette époque, ainsi que son fondateur, sont proches de l'esprit des Swinging 60s. Et qu'il règne dans ce mouvement une culture musicale un peu élitiste. Ronan O'Reilly, Simon Dee, Carl Conway, Chris Moore ou John Junkin étaient proches du blues et du jazz, et ces musiques étaient largement programmées, ainsi que les crooners. La station avait d'ailleurs l'habitude de clore ses programmes par le standard de jazz Round Midnight, composé par Thelonious Monk, mais dans une version plus rhythm and blues, celle de Jimmy McGriff. C'était aussi cela, le son des débuts de Radio Caroline. Thank you. Le projet Radio Atlanta d'Alan Crawford se concrétise aussi, grâce entre autres à ses deux associés Dorothy Kitty Black, autrice et agent de théâtre, qui a notamment traduit Jean-Paul Sartre, et le major Oliver Smedley, homme d'affaires qui tenta brièvement une carrière politique. Black et Smedley, respectivement introduits dans le milieu artistique et celui des affaires, ont fait venir des bailleurs de fonds, et Radio Atlanta a même obtenu la discrète collaboration de certains pilotes de Trinity House, l'organisme chargé de la gestion des phares, afin de définir un lieu idéal de mouillage pour le Miamigo. Dans le courant du mois d'avril 64, le bateau était prêt et quitta le port de Graynor pour rejoindre les eaux internationales. Mais le 21 avril, le mât de 168 pieds commença à osciller dangereusement sous la puissance du vent et une partie du gréement se détacha. Les oscillations du mât rendirent le navire de plus en plus incontrôlable. Le capitaine n'eut pas d'autre choix que de ramener le bateau dans les eaux territoriales afin de réparer. C'est le port de Falmouth qui accueillit le Miamigo. Fort heureusement pour l'équipe de Crawford, les autorités ne réagirent pas et le Miamigo repartit sans encombre une fois les réparations effectuées. Il vint se positionner à Frinton-on-Sea, sur la côte de l'Essex, à environ 14 miles du MV Caroline. Toutefois, le mauvais temps empêcha les programmes de débuter et les premiers essais de transmission ne commencèrent que le 9 mai. Dans les premiers jours, Radio Atlanta émit juste après la fin des programmes de Radio Caroline sur la même fréquence, espérant ainsi capter les auditeurs de sa grande rivale.
This is not the regularly scheduled programming of Radio Atlanta. Radio Atlanta is testing. We repeat, Radio Atlanta is testing. Hello, somebody.
C'est finalement le 12 mai à 18h que Radio Atlanta ouvrit officiellement son antenne. Le long marathon de 4 ans qui a conduit à cette naissance est célébré par une conférence de presse d'Alan Crawford dans un hôtel londonien. L'émetteur d'Atlanta fut volontairement positionné sur une fréquence très proche de celui de sa concurrente. Ainsi, il est évident que voulant régler leur transistor sur la fréquence de Caroline, de nombreux auditeurs ont capté le programme de Radio Atlanta. Les émissions de la station étaient majoritairement enregistrées à terre, alors que celles de Caroline se faisaient de plus en plus en direct depuis le bateau. De ce fait, si l'antenne de Radio Atlanta était plus professionnelle, elle manquait malgré tout de la spontanéité des directs de Caroline. Si la radio de Ronan O'Reilly mélangeait les styles musicaux, Atlanta programmait des styles bien distincts selon les heures.
Say, will you do us a favor? Will you tell a friend you've found a good friend at 200 meters? This is Radio Atlanta. It's amazing how people love music and how they get their requests through. Today we had some air conditioning work done, and of course it was a very large, big piece of steel to air condition the room out here at Radio Atlanta for the engineering. And the people over at the sheet metal shop had written all types of requests all over the sides of it. Different songs. They wanted to hear the Beatles. They wanted to hear Billy Vaughan. They wanted to hear so many, many songs. So all of you people out there that work in the air conditioning place over there. We saw all of the writing, and we can't promise you, of course, that we'll get all the requests, but we'll try to play everything that you had written down. Right now, here is Billy Vaughan with an instrumental but a very beautiful tune. It's titled Blue Tomorrow.
L'arrivée d'une seconde radio offshore sur les ondes mit le gouvernement britannique, et en particulier Reginald Bevins, ministre des Postes et Télécommunications, dans une situation de plus en plus délicate. Au lancement de Caroline, M. Bevins avait promis la fermeté, tout en soulignant que le problème relevait de l'Europe. Mais l'incontestable succès de la première radio offshore a fait évoluer le rapport de force. À la suggestion de M. Bevins de créer une commission de réflexion sur les radios maritimes, les parlementaires conservateurs répliquèrent que ce problème était une affaire gouvernementale et que le gouvernement ne devait pas se décharger sur une commission. Ils ont surtout soulevé deux points importants. D'une part, le fait que la commission Pilkington de 1962 s'était lourdement trompée en concluant que le public britannique ne désirait pas une plus grande pluralité du paysage radiophonique. D'autre part, certains parlementaires firent remarquer qu'une attaque frontale de ces radios pourrait coûter des voix lors des prochaines élections législatives. et une partie d'entre eux appela carrément à officialiser une expérience de radio en suggérant que 3 programmes soient autorisés à titre expérimental, l'un contrôlé par la BBC, un second par une université et le dernier confié à une société privée. Ce serait un moyen pour le gouvernement de ne pas trop perdre la face. Du côté des radios offshore, on est loin de ces atermoiements. Et le 27 mai, une 3e radio débarque sur les ondes. Les deux hommes derrière cette nouvelle radio sont le chanteur Screaming Lord Sutch et son manager Reg Calvert. Et la station, qui s'appelle Radio Sutch, est lancée presque sans moyens. Calvert et Sutch se sont rapprochés d'un patron pêcheur qui leur a loué son bateau. Ils y ont installé un studio de fortune et l'émetteur est un simple câble tiré entre les deux mâts. Le 24 mai, Reginald Calvert donne une conférence de presse au moment du départ du Cornucopia pour les eaux internationales. Mais l'excentricité légendaire du chanteur laisse sceptique sur le but de cette radio. D'aucuns pensent que Screaming Lord Sutch s'offre un gros coup de pub, même si Reg Calvert affirme que l'entreprise est sérieuse. La station est présentée comme un projet non commercial et alternatif face à Radio Caroline et Atlanta. Elle sera censée faire la promotion d'artistes ou de groupes peu connus. Ce qui se passe après le départ du Cornucopia pour la haute mer reste aujourd'hui non clarifié. Dans une première version, tout le matériel de transmission aurait été immédiatement transféré sur le fort marin de Shivering Sand et les émissions auraient débuté de cet endroit. Dans une seconde version, racontée par David Sutch, bien plus tard, le propriétaire du Cornucopia aurait, suite à des problèmes d'assurance, renoncé à louer son bateau. Et ne parvenant à trouver aucun autre navire, Calvert et Sutch auraient alors jeté leur dévolu sur Shivering Sand, situé dans l'estuaire de la Tamise. Ce fort marin fait partie d'une série d'installations que l'armée anglaise avait construites durant la Seconde Guerre mondiale afin d'y installer une défense anti-aérienne contre les bombardements nazis. Une décennie après la fin du conflit, l'État britannique tenta sans succès de vendre ses plateformes marines. Elles furent finalement purement et simplement abandonnées. Le jour où débutèrent les émissions de Radio Sutch, le ministère de la Défense réagit et décida d'envoyer un huissier pour constater l'occupation illégale du fort. Le 28 mai, des policiers du Kent, flanqués d'un fonctionnaire du ministère de la Défense, prirent effectivement la mer en direction de Shivering Sand. Mais pour une raison inconnue, ils furent rappelés à terre. À ses débuts, Radio Sutch disposait d'un émetteur de très faible puissance et ses émissions furent difficiles à capter. La régularité et la durée des programmes fut dans un premier temps très aléatoire. Tout aussi aléatoire étaient les approvisionnements du fort. Il en résulta que les animateurs durent parfois interpeller les bateaux passant au large afin de se faire ravitailler en denrées de première nécessité. Ces appels au ravitaillement étaient bien entendu effectués en direct durant les émissions.
Yeah, this is Radio Sutch on 197, and that was Freddie Cannon with The Urge. Now here's Handy Man by Jimmy Jones. I wonder if he really is.
C'était Les DJ de la Haute Mer, 6e épisode, une émission proposée par Olivier Delaporte.
Streets of London late at night.
The Ripper, Jack the Ripper,
with a little black bag that's oh so tight.
The Ripper, Jack the Ripper,
he's got a big black cloak hanging down his back.
The Ripper, Jack the Ripper,
well that's a one big cat that just hate to fight.
The Ripper, Jack the Ripper,
well it won't. Down the street, ever get him, it says your name, the blouse.
Oh, Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper.
When she walks down the street, he's never far behind.
The Ripper, Jack the Ripper,
with his little black bag and his one-track mind.
The Ripper, Jack the Ripper,
well, he really catches up when the lights go down.
The Ripper,
cause is that the time he starts his dirty shove around?
Jack the Ripper, Jack the Ripper.
When he walks down the street, if a girl he meets says your name is Blonde. Yacht will never catch him, 'cause he's a much too clever.
He's much too clever.
But if they do, a man will get the leather, yes.
The Ripper, Jack the Ripper. The Ripper, Jack the Ripper.
With the streets of London can never save.
The Ripper, Jack the Ripper.
Whenever Jack the Ripper ever shows his face,
the Ripper.
So you pretty little girl, let's take my advice.
Jack the Ripper, Jack the Ripper.
And don't walk the streets of London late at night.
The Ripper, Jack the Ripper.
Well, he walks down the street, every girl he meets says your name is blah, blah, blah.
Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper.